19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est plutôt pour nous une super nouvelle. Bon, à vrai dire, on s'y attendait vraiment pas, pour le coup. À l'approche des phases finales de l'Euro, on voit plutôt ça comme un soulagement aussi.
Tomber le masque en extérieur, sauf quand il y a du monde et sauf dans les cours de récréation, ce sera possible dès demain.
Et dès dimanche, fini le couvre-feu, des annonces qui réjouissent évidemment les professionnels de la restauration.
Et si le gouvernement accélère le calendrier du retour à la vie normale, c'est parce que tous les indicateurs sanitaires sont au vert.
L'affaire Élodie Kulik, actuellement jugée devant les Assises du Nord, la jeune femme avait été enlevée, violée, étranglée en 2002 dans la Somme.
Moment douloureux aujourd'hui, la diffusion de l'appel de la jeune femme aux pompiers au moment de son agression.
Les régionales en PACA, on en parle. La requête des Républicains contre Thierry Mariani, jugée irrecevable.
Immobilier, les villes moyennes confirment leur dynamisme.
Et puis au lendemain de leur victoire contre l'Allemagne, on prendra des nouvelles des Bleus, on sera en direct de Munich. La météo également avec Anissa Haddadi, toujours 29 départements en vigilance orange, prudence.
Oui, 28 départements de la moitié ouest du pays, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Seine maritime et puis le Rhône qui vient d'être placé en vigilance orange canicule. Il va faire très chaud cette nuit à Lyon et dans sa région, demain aussi. Les orages seront nombreux, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous savez quoi ? On va de nouveau voir les gens sourire, mais on va aussi voir ceux qui font la tête. On ne peut pas tout avoir. Hein.
En tout cas, c'est une forme de libération qui a été annoncée à la mi-journée par Jean Castex. La fin du masque à l'extérieur dès demain. Masque qui reste toutefois obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur dans les lieux bondés, comme les stades, par exemple, ou encore les salles de concert.
Le Premier ministre qui annonce aussi que le couvre-feu prendra fin à partir de dimanche. Ça veut dire qu'il s'appliquera une dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche.
Et c'est tout sauf anodin pour les cinémas qui vont de nouveau pouvoir proposer une séance à 22h ou pour les théâtres et bien sûr pour les restaurateurs.
Comme Geoffrey Clavel, il gère le restaurant Le Pingouf, c'est à Lyon.
C'est plutôt pour nous une super nouvelle. Bon, à vrai dire, on s'y attendait vraiment pas, pour le coup. À l'approche des phases finales de l'Euro, on voit plutôt ça comme un soulagement aussi. On va pouvoir refaire notre vrai métier, arrêter de faire systématiquement la police. Donc, retrouver un contact un peu plus sympa avec nos clients, et ça, c'est chouette. Ça nous permettra aussi, en termes de restauration, d'envisager un deuxième service de qualité et de pouvoir accueillir les gens qui pour des raisons d'affaires, de rendez-vous, de vie privée simplement, ont des habitudes un peu plus tardives de sortie. On va repartir au contact de cette clientèle-là aussi, qui est une pré-clientèle de sortie. Le chiffre d'affaires va se rattraper. On va pouvoir aussi redisposer un peu nos plannings et peut-être proposer d'autres modulations à nos staffs pour essayer aussi de les garder, de les motiver et d'en trouver d'autres. C'est un vrai pas de plus vers la normalité. Donc pour nous, c'est plutôt vraiment, vraiment une bonne nouvelle, un soulagement.
Le patron du restaurant Le Pingouf à Lyon, joint pour Europe 1 par Laura Taouchanoff.
Alors celui-là, dès que je vais à Lyon, je fais un détour, c'est promis, je vais dîner au Pingouf.
C'est Geoffrey Cavel.
Avec un nom comme ça. Merci à lui en tout cas. On entend la satisfaction des restaurateurs. Victor Delande, dites-nous pourquoi le gouvernement a-t-il choisi d'accélérer la levée de ses restrictions, aussi bien le port du masque en extérieur que la fin du couvre-feu à partir de dimanche?
Alors en fait, le gouvernement s'appuie sur des très bons chiffres. L'épidémie est en net recul, avec un taux d'incidence de 40 sur l'ensemble du pays. Il y a actuellement 3500 nouveaux cas de coronavirus par jour, soit une baisse de 40% sur les 7 derniers jours. C'est simple, on n'avait plus atteint un niveau de contamination aussi bas depuis la mi-août 2020. Et dans les hôpitaux, cette baisse est également visible. Moins de 12 000 patients Covid sont actuellement soignés dans les hôpitaux français et moins de 2 000 patients sont pris en charge dans les services de réanimation. Concernant le port du masque en extérieur, la plupart des spécialistes de l'épidémie semblent d'accord et pour cause, les contaminations sont 20 fois moins importantes dehors. En revanche, il y a comme un doute sur la levée du couvre-feu à partir de dimanche soir. Certains épidémiologistes redoutent notamment que cette annonce soit interprétée par certains Français comme la fin de l'épidémie. Ce n'est pas le cas, disent-ils. Même si le virus circule de moins en moins, il faut continuer à observer les gestes barrières et le port du masque à l'intérieur.
Évidemment, Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Une actualité judiciaire très riche en ce mercredi, avec d'abord la condamnation à perpétuité de l'ex-compagnon de Julie Douib à Bastia.
Verdict de la cour d'assises de Haute-Corse avec une peine de sûreté de 22 ans pour Bruno Garcia.
Du nouveau également dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn.
Cette jeune infirmière dont on est sans nouvelles depuis la mi-décembre, son mari est en garde à vue ainsi que 3 autres personnes de la famille de ce dernier.
Et puis des moments très forts aujourd'hui aussi au 3e jour du procès en appel de Willy Bardon devant les Assises du Nord.
Jugé pour le viol et le meurtre d'Élodie Kulik, c'était en janvier 2002 dans la Somme. Lionel Gougelot, la cour a entendu aujourd'hui pour la première fois la bande audio de l'appel téléphonique passé aux pompiers par la jeune femme au moment de son agression. Et c'est un moment qui a été extrêmement douloureux pour le papa de la victime.
Oui, effectivement, le père d'Élodie avait déjà enduré ce matin la présentation des photographies de la découverte du corps violenté et à moitié calciné de sa fille. Et cet après-midi, pour la première diffusion de l'enregistrement de l'appel d'Élodie Kulik aux pompiers, quelques secondes avant son agression, Jackie Kulik a préféré quitter la salle.
C'était pas la peine de me soumettre à nouveau à ce traitement.
À cette souffrance ?
Horrible, cette souffrance, exactement. Donc, je préférais sortir. Ma conviction est faite depuis bien longtemps. C'est tellement affreux quand j'entends la voix de ma fille. Il y a deux voix que je reconnais, c'est bien celle et d'Élodie et de Bardon.
26 secondes d'un enregistrement où l'on distingue les hurlements de la jeune femme qui réalise à cet instant que ses agresseurs ne lui laisseront aucune chance. Durant l'instruction, des proches de Willy Bardon ont affirmé que l'une des deux voix masculines en arrière-plan était la sienne. Des témoignages sujets à caution pour la défense de Bardon, maître Gabriel Duménil.
Bien sûr, nous souhaitions que cet appel puisse être diffusé au début du procès parce que c'est une pièce intéressante, elle fait partie du dossier, donc c'est légitime que les jurés et que la cour puissent en avoir connaissance. En revanche, il ne s'agit pas de la rabâcher, parce qu'on comprend la partie de l'accusation. Plus on va l'entendre, plus on va peut-être se forger une opinion. Les experts diront ce qu'ils voudront. Je pense qu'ils nous diront que cette pièce ne peut pas être utilisée dans le cadre d'un procès pénal. Ils nous verront bien.
Des experts en analyse vocale qui viendront exposer leurs conclusions la semaine prochaine.
Lionel Gougelot qui suit ce procès pour Europe 1 aux Assises du Nord. À quelques jours des régionales, le tribunal judiciaire d'Avignon juge irrecevable la requête d'élus Les Républicains qui contestaient la régularité de la candidature de Thierry Mariani. Le candidat du Rassemblement national est en tête des sondages pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Oui, ces élus avaient saisi la justice pour obtenir sa radiation des listes électorales au motif qu'ils ne possèdent pas un domicile réel dans la ville. Ils ont donc été retoqués.
Franck Alizio est le porte-parole de Thierry Mariani et conseiller régional RN en PACA. Il accueille cette décision avec satisfaction.
Avec la même sérénité qu'on a accueilli cette affaire qui était montée de toutes pièces et qui a fait long feu et qui se termine aujourd'hui, bien évidemment, par un rejet. Par un rejet de la requête. On n'en attendait pas moins, ça a juste pourri l'ambiance de 10 jours de campagne. Nous, on souhaitait parler fonds, souhaitait parler projets. Renaud Muselier et ses équipes souhaitaient parler boule puante. Ben, ils ont pu en parler pendant 15 jours. C'est une boule puante. Quand on est en difficulté, c'est le cas de l'équipe sortante, du président sortant, eh bien, on essaie de créer des affaires, de s'en sortir par des subterfuges, par des affaires montées de toutes pièces. Et ça ne marche pas, la preuve.
Franck Alizio, conseiller régional RN en PACA, joint pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Une poignée de main pour l'histoire, tête à tête entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Cet après-midi à Genève, leur discussion a duré plus de 4 heures, rencontre constructive selon Vladimir Poutine.
Europe 1, Julien Bugier.
19h07, restez avec nous dans quelques secondes, la suite du journal. Ruée immobilière sur les villes moyennes.
Et séance d'écrassage pour les Bleus au lendemain de leur victoire contre l'Allemagne.
A tout de suite. La suite du journal dans Europe Soir, et c'est un des effets directs de la crise sanitaire et du télétravail. Les villes moyennes françaises ont été plébiscitées par les acheteurs de biens immobiliers.
Cette tendance a été observée dès le lendemain du premier confinement et elle semble se confirmer, Maud Descamps.
En effet, je vais vous donner quelques chiffres, vous allez tout de suite comprendre. À Besançon, par exemple, le nombre de transactions immobilières a augmenté de 110% entre 2019 et 2020. À Lorient, plus 20%. Même chose à Agen, plus 15% de transactions à Bourges. Si on fait la moyenne sur l'ensemble des villes moyennes en France, le nombre de transactions immobilières a augmenté de 4,5%. Alors ça peut paraître peu, hein, mais si on compare à la tendance nationale qui est de moins 4%, on voit bien que ces villes de plus ou moins 40 000 habitants ont attiré les acquéreurs. Des villes qui combinent plusieurs attraits, comme le détail Peggy Montesinos du Conseil supérieur du notariat.
Un coût de la vie plus abordable par rapport à celui des grandes métropoles. On a en plus une commodité de transport qui relie quand même les territoires plus facilement aujourd'hui. Et ce qui fait véritablement l'attrait de ces villes, c'est leur prix. On va dire que le coût moyen dans ces villes moyennes, c'est 200 000 euros.
200 000 euros pour une petite maison avec jardin, pour le prix d'un studio à Paris, des arguments qui ont séduit les Franciliens qui ont été plus nombreux cette année à acheter en dehors de l'Île-de-France.
Les précisions de Maud Descamps du service Écho d'Europe 1. Au lendemain de leur victoire 1-0 contre l'Allemagne hier soir pour leur entrée en lice dans l'Euro, séance d'écrassage aujourd'hui pour l'équipe de France de foot, toujours à Munich et toujours sous vos yeux, Cyril de la Morinerie.
Oui, les Bleus ont préparé une séance légère dans une ambiance estivale, plus de 28 degrés au thermomètre. Tout s'est déroulé dans le magnifique FC Bayern München Campus, le centre d'entraînement des jeunes et des féminines. Situé à la sortie de la ville, une pelouse parfaite, d'un vert éclatant, de meilleure qualité que les trois quarts des terrains de Ligue 1. Alors Griezmann, Kanté, Pogba, Rabiot et Pavard ont trottiné le long du terrain pendant une trentaine de minutes. Les remplaçants ont fait un entraînement plus poussé. Quant à Lloris, Hernandez, Benzema et Mbappé, ils sont restés à l'intérieur du campus avec les kinés pour récupérer de leurs efforts. Raphaël Varane, qui a fait du vélo cet après-midi, n'a pas caché lors de la conférence de presse sa satisfaction d'avoir remporté ce premier match.
Je pense qu'on a réussi une belle performance, on a réussi à être solide, on a concédé très très peu d'occasions. Au niveau défensif, c'est surtout le travail de l'équipe qui a à mettre en avant. Je pense qu'on a vu nos trois attaquants défendre énormément, un milieu de terrain qui courait beaucoup. En plus, on n'a pas encaissé de but, donc forcément, pour la défense, c'est de la confiance en plus.
Une heure plus tard, les Bleus ont quitté le centre d'entraînement, direction l'aéroport pour aller à Budapest, la prochaine étape de cet Euro itinérant. Les Français vont rester au moins une semaine dans la capitale hongroise puisqu'ils vont disputer deux matchs contre la Hongrie et le Portugal.
Cyril Lamorinerie qui nous a fait vivre ce match hier soir en direct sur Europe 1.
En marge de cet Euro, une image ou plutôt un geste aux lourdes conséquences, celui de Cristiano Ronaldo, lundi dernier en conférence de presse.
Oui, la star portugaise a simplement déplacé de quelques centimètres des bouteilles de Coca-Cola qui se trouvaient sur le pupitre devant lui. Et la suite, vous allez nous la raconter, Clément Le Saff.
Oui, il faut imaginer la scène. Hein, lundi, donc veille de match du Portugal contre la Hongrie, Cristiano Ronaldo se présente devant les journalistes et alors que la conférence de presse va commencer, la star de la Seleção s'empare des deux bouteilles de coca placées devant lui et les déplace hors du champ des caméras.
Coca-Cola.
Voilà, on l'entend pas bien, mais ce qu'il dit, c'est de l'eau, pas du coca. Hein. Il faut dire que le Portugais est connu pour son hygiène de vie très stricte. Il avait déjà dit lors d'une interview qu'il n'aimait pas que son fils boive du soda, sauf que cette fois, ça va plus loin car Coca-Cola est un sponsor officiel de l'Euro et paye donc très cher pour que ses bouteilles soient bien visibles partout. Et puis, ce petit geste a coûté cher à Coca. L'action du groupe a chuté de 1% en deux jours. Alors, vous allez me dire, ça paraît peu, mais ça fait quand même perdre 4 milliards de capitalisation, des dollars, évidemment, 4 milliards de dollars de capitalisation au groupe. Ça en dit long donc sur l'influence que peut avoir Cristiano Ronaldo dans le monde. Il ne sera pas malgré tout sanctionné par l'UEFA, mais il a fait des émules hier après la victoire contre l'Allemagne. C'est Paul Pogba qui a déplacé à son tour, non pas une bouteille de coca, mais une bouteille de Heineken, une bouteille de bière, autre sponsor de l'Euro. Sauf que cette fois, l'action du géant de la bière n'en a pas souffert.
Oui, tout le monde n'est pas Ronaldo. Hein.
Oui, exactement. Il a 300 millions de followers sur Instagram. 300 millions. S'il met demain un t-shirt rose, ça va booster les ventes de t-shirts roses. Voilà, c'est ainsi. C'est pas votre cas, Clément?
Non. Non, j'ai pas 300 millions de followers sur Instagram,
non. C'est pas le mien non plus. Et vous ne mettez pas des t-shirts roses.
Non.
Vous avez un très beau t-shirt de l'équipe de France, d'ailleurs. Voilà, une étoile.
Quand on gagne, il faut l'assumer.
Merci, merci Clément, merci Isabelle. À demain pour le 18-20. La météo, Anissa Haddadi, 19h14. Toujours 29 départements en vigilance orange.
Oui, toujours 28 sur la moitié ouest du pays. Et le département du Rhône, placé en vigilance orange canicule. Alors demain, on aura presque une France coupée en deux. C'est à l'est, sur l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Auvergne, les Alpes et puis la Côte d'Azur. C'est là que le soleil va briller avec de très fortes température. Vous aurez encore droit à une journée d'été sur la moitié est. Ailleurs, et notamment du sud-ouest au nord, les orages seront forts avec de la grêle, des rafales de vent, de la forte pluie. Attention en Nouvelle-Aquitaine, particulièrement sur les Pays de la Loire, dans le centre et en région parisienne. Demain, les orages seront assez violents et nombreux. Les températures, 15 à 22 degrés demain matin. Dans l'après-midi, toujours de la chaleur à l'est avec 36 degrés à Strasbourg, 35 à Colmar, 34 à Lyon, 31 degrés à Paris, 29 à Lille. À l'ouest, les températures baissent bien avec le passage des orages. 27 à Rouen, 25 à Nantes, 24 pour Bordeaux et 17 la minimale à Saint-Brieuc.
Merci Anissa. À demain 18h.